Bien, bonsoir. Donc nous sommes ensemble pour quelques minutes ou quelques temps pour présenter un livre, un ouvrage collectif sous la direction de Manon Billot et Emmanuel Champaumier, pardon, excusez-moi, ici présente, mais également de Marion Polir-Stock et Charlotte Servelle, qui s'intitule La séance de cinéma, espace, pratique, imaginaire. Donc, alors, juste pour les deux personnes présentes, donc Manon Billot est l'auteur d'une thèse consacrée à André Antoine, une espèce de, enfin, une figure précisément à mi-chemin, enfin, qui à la lisière du théâtre et du cinéma, précisément dans les premiers temps. Qui a donné lieu à un livre chez Mimesis sous le titre André Antoine au cinéma, une méthode expérimentale. Et Emmanuel Champaumier est-elle l'auteur d'une thèse consacrée à l'histoire de la presse cinématographique à partir de 12 revues qui sont embrassées entre 1908, je crois, et 1940. Donc là encore sur un âge, voilà, l'âge d'avant-guerre. Et donc cet ouvrage, alors collectif, alors elles sont donc les deux co-directrices parmi quatre autres co-directrices de ce livre sur la séance de cinéma, donc sous-titre Espace pratique imaginaire. Donc publié aux éditions de pardon, RHC, l'Association française de recherche sur l'histoire du cinéma. Alors, ce livre, bon, alors voilà, l'idée c'est effectivement d'essayer de feuilleter en quelque sorte ce livre et les propositions qu'il y a à l'intérieur du livre, mais évidemment, et d'ailleurs vous le faites dès l'introduction. Il y a un net tropisme autour des années 20, quand même, dans le film, c'est-à-dire le moment où, enfin, dans le livre, pardon, c'est-à-dire le moment où la séance de cinéma en tant que dispositif, espace aussi, enfin, je veux dire, à l'intérieur d'un cinéma, etc., on se stabilise et on est effectivement quand même en ce moment, et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être. On a fêté le centenaire du cinéma en 1995, mais peut-être que là précisément, on est dans le centenaire du moment où peut-être de la séance de cinéma. C'est peut-être là-dessus que je voudrais vous lancer, quoi. C'est-à-dire, vous, du coup, vous documentez, on va y revenir, quand même beaucoup de choses sur ce moment, effectivement, dans les années 20, où effectivement ce qu'on appelle la séance de cinéma se stabilise, entre guillemets. Et là, on est quand même dans une période, 100 ans après, donc, où la séance de cinéma, en tant qu'espace-temps, dispositif ou que sais-je, se déstabilise un petit peu. Enfin, ou en tous les cas, se vaporise ou se déconcentre ou que sais-je. Donc c'est peut-être l'occasion quand même d'en parler. Alors le livre ne se résume pas aux années 20. Vous évoquez notamment des choses, enfin notamment des séances un peu, notamment à la fin sur séances d'Andy Warhol, enfin et du Velvet Underground, enfin particulière, on va dire sur des logiques un peu d'avant-garde ou de, enfin, d'avant-garde, je sais pas si ça a beaucoup de sens dans les années 60 pour Andy Warhol, mais bref, un moment où il y a des expérimentations effectivement particulières sur la séance de cinéma, et puis aussi d'un collectif, on pourra en parler aussi, enfin, n'hésitez pas, voilà. Alors, bon, je viens de dire voilà des choses un petit peu déjà sur ce moment où ça se stabilise. Enfin, notamment il y a un article qui aussi c'est un enjeu, c'est l'architecture des salles de cinéma. On pourra en parler. C'est-à-dire les années 20. Alors ça, pour le coup, j'ai appris quand même certaines choses à ce propos. Effectivement, on sait que les années 20, c'est le moment où les choses se stabilisent. Mais par exemple sur l'architecture des salles de cinéma, c'est le moment aussi où à Paris s'impose. enfin, où Paris est un espace à conquérir aussi, hein, pour les exploitants, et avec des projets d'architecture et de plus en plus des architectes spécialisés dans les salles de cinéma. Et au passage, c'est pas inintéressant parce qu'il y a toute une cartographie parisienne sur le fait que au début, ce sont des salles plutôt périphériques parce que évidemment, à la fois les terrains ne sont pas chers et qu'en même temps, c'est aussi un public populaire et qu'a priori, voilà, et qu'ensuite dans les espaces plus les zones de Paris plus bourgeoises, riches, rupines, je ne sais comment dire, ça devient aussi un enjeu. Donc il y a une cartographie aussi, il y a une sociologie par rapport à l'implantation et surtout l'histoire de l'implantation des cinémas à Paris, mais on pourra en reparler encore une fois. Alors, en tout cas, sur dans l'introduction, vous rappelez quand même quelque chose d'important, c'est que cette histoire de séance, la catégorie de la séance, c'est cette histoire-là, voilà, c'est ce terme assez curieux qui dérive donc de soir, comme s'asseoir, c'est-à-dire quand même un espace-temps où on est immobile, soit assis, soit allongé, à plusieurs. mais en tous les cas, où on accepte de rester immobile avec des inconnus, ou pas, enfin voilà, devant un film. Ce qui finalement ne va pas de soi, en effet. Et donc vous rappelez, et on pourra aussi, surtout ça ne va d'autant moins de soi par les temps qui courent, aujourd'hui, précisément. Donc on pourra y revenir. Et vous rappelez aussi, bien sûr, que la séance, c'est pas seulement un terme de cinéma, mais c'est aussi un terme, alors, effectivement, déjà artistique avec la séance de pause, enfin, la séance du modèle. C'est une séance, on parle d'une séance. Il y a la séance juridique aussi, enfin, la séance d'un tribunal. Bon. Et puis, bien sûr, la séance psychanalytique. Bon. Et comme on le sait, 95 et marque à la fois la naissance du cinéma et de la psychanalyse, mais donc la séance, voilà, c'est aussi là-dedans qu'il faut y penser. Alors, je dirais que tout simplement, déjà, puisqu'il y a ce tropisme des années 20, c'est-à-dire ce moment où cette pratique de la séance s'impose, à la fois dans des espaces et collectivement, etc. Je propose qu'on passe effectivement un des films, puisque donc est adjoint au livre, un DVD comportant une dizaine de courts-métrages, des années 10 d'ailleurs plutôt, avec cette beauté d'ailleurs du cinéma, qui est que c'est un art, enfin, on pourra aussi, voilà, vous le prenez par le biais de la séance, mais voilà. C'est un art qui, quand même, a d'emblée filmé son dispositif d'emblée, quoi. Enfin, c'est quand même assez particulier, ça. C'est évidemment, oui, il y a la figure de l'atelier dans la peinture, il y a la figure du lecteur ou du bureau, enfin, mais sauf que le cinéma d'emblée a presque, et que d'ailleurs, on va en reparler, le cinéma s'est vendu presque aussi comme spectacle de son propre dispositif dans les années 20. Mais bon. Donc, peut-être pour simplement ancrer les choses. Ah d'un coup, une séance, tout d'un coup. Peut-être regarder. Alors, je vous laisse peut-être le présenter. Donc, c'est un de ces courts-métrages qui est donc sur ce DVD qui voilà. Est avec le livre.
Donc, à la fin, en fait, du livre, vous avez un DVD. Qui donc comporte effectivement une dizaine de films qui viennent de collections principalement de la Fondation Jérôme Sédoupaté, où je travaille par ailleurs, je suis responsable justement de la collection de films, et également de les collections Gaumont chez GP Archives, et aussi de Lobster Film. Et donc là, en l'occurrence, on voulait juste vous mettre un peu dans l'ambiance et créer ensemble cette séance en vous faisant donc assister à la projection de ce film, qui est un petit film qui dure environ 4-5 minutes, qui est un film de 1918, qui est une production américaine de Hal Roach, mais qui a été distribué par Pathé. en France et qui donc appartient aux collections de la Fondation Pathé. Voilà, donc film de 1918 qui dure 4 minutes avec Harold Lloyd qui était un célèbre comique que vous allez certainement reconnaître. Donc le film s'appelle Lui, directeur de cinéma. Lui, bah, donc, c'est ce personnage de Hal Roach qui appartient à toute une série comique. Harold Lloyd, pardon, chez Pathé. Et bah, vous allez voir, il est directeur du cinéma et il se passe plein de choses voilà, dans ce cinéma.
Chut. Ce qui est assez frappant, d'ailleurs, ça se finit sur un incendie quand même. La figure de l'incendie dans les cinémas, c'est quand même fréquent. Et bon, c'est le vagabond là, avec sa pipe. Bon. Donc, 1918, hein, c'est un film de 1918. Alors déjà, je voulais peut-être... vous lancez simplement, encore une fois, sur, puisque évidemment, le livre s'ouvre notamment sur la manière dont la séance de cinéma se codifie, grosso modo, au cours des années 20. Et avec quelque chose qui est quand même intéressant, et qu'on voit d'ailleurs, enfin, on entrevoit que c'est pas encore stabilisé, effectivement, en 1918. Enfin, d'ailleurs, notamment le silence, peut-être. On pourrait en parler, enfin le fait de ne pas parler pendant la séance, etc. Mais on voit bien que là, oui, dans la salle, coexistent des rythmes très différents. Tout le monde n'est pas exactement sur n'est pas encore dans la concentration, on va dire, de la séance de cinéma. Et il y a notamment, bon, il y a un article notamment au début du livre qui essaie d'expliquer cette drôle d'écologie de l'attention, je dirais. Qui s'installe dans les séances de cinéma. Donc, je ne sais pas, comment est-ce que vous raconteriez ça, vous, par exemple ? Comment, effectivement, quelles sont les étapes ? Puisque, notamment, cet article, je crois que c'est un article de Jean-Jacques Messy, voilà. Notamment, il y a le problème, il y a plusieurs problèmes, mais il y a le problème de la durée. Ça, c'est assez beau, ça, c'est quand même. C'est que finalement, c'est vers 1910-1911, je crois, que le long métrage est possible. Parce qu'avant, ce n'était pas techniquement possible. Donc déjà, ça inscrit quelque chose. Et surtout, il y a cette idée que finalement, bon, les séances de cinéma jusque-là, c'est en fait un agrégat de diverses choses, de petits programmes, de petits films, de petits spectacles, notamment musicaux, etc. Mais donc, comment vous résumeriez ce moment où on arrive peut-être à ce qu'est, ce qu'on pense encore être aujourd'hui, une séance de cinéma, puisque... C'est notamment l'intérêt du livre, c'est de rappeler que la séance de cinéma n'est pas une catégorie inscrite dans le marbre.
Oui, donc en effet, le livre s'ouvre après une introduction qui vraiment voilà, replace ce qu'est la séance de cinéma et toutes les difficultés qu'il peut y avoir en fait, justement à la définir, toutes les questions que ça soulève, etc. On pourra en reparler après. Ensuite, par un article de Jean-Jacques Messy, qui est vraiment l'historien du cinéma spécialiste hein, de cette question des salles de cinéma. Je reconnais quelques têtes de membres de la FRHC, donc je pense que vous connaissez par ailleurs l'ouvrage en deux volumes qui est paru aux éditions de la FRHC sur justement cette histoire des salles de cinéma. Là, en fait, on l'a convié lors d'une journée d'études qu'on avait organisée justement spécialement autour de la question des années 20, pour que lui revienne comme ça sur cette histoire donc de la séance et de cette enfin jusqu'à l'institutionnalisation de cette séance. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile d'arriver à dater précisément à partir de quel moment est-ce qu'on peut vraiment parler d'une séance, on va dire uniforme et qui ressemblerait à celle qu'on connaît aujourd'hui. On sait que la première séance qui a eu lieu, donc au Grand Café, la séance lumière, c'était bah, des petits films lumière qui duraient chacun une minute. Et donc déjà, c'était la composition d'un programme. Et puis par la suite, les séances de cinéma, tout simplement, enfin, elles avaient lieu déjà dans des salles qui n'étaient pas forcément des salles de cinéma. Vous savez que tout d'abord, c'était un art forain. Et donc, c'était des films qui pouvaient être avec d'autres types de spectacles. Et puis ensuite, donc les films ont commencé à s'insérer vraiment dans des salles qui étaient par ailleurs des salles de théâtre. Et donc là encore, souvent, on pouvait retrouver des films qui étaient accompagnés par des spectacles de danse, de chant et voilà. plein d'autres sortes de petites scénettes. Déjà, dès le départ, on peut en parler parce qu'on l'a vu là aussi à l'écran, mais donc ces films étaient forcément muets hein, jusqu'à la fin des années 20, 1928, mais accompagnés toujours musicalement, donc généralement au piano ou sinon avec d'autres types d'instruments si les salles avaient plus de moyens, hein, pouvaient même mettre à disposition un orchestre, étaient aussi accompagnés sinon par du boniment. Donc de quelqu'un qui racontait en fait le film, puisqu'il y avait aussi des spectateurs qui ne savaient pas encore lire et donc forcément ils avaient besoin de pouvoir expliquer les cartons, voilà, qu'on ne pouvait pas lire, mais même aussi parfois expliquer le montage en fait du film, ce qui se passait, l'enchaînement des séances, parce que nous on voit un film comme ça aujourd'hui, tout nous semble évident, on est habitué en fait à cette narration. Mais on peut imaginer qu'au début, ça n'allait pas de soi, un montage de différentes scènes dans différents lieux, etc. Donc, l'accompagnement musical, qui est donc, on va dire, un des éléments essentiels de la séance, donc le fait de se regrouper ensemble pour voir un film. Ensuite, à partir de quand est-ce que vraiment la séance s'est résumée uniquement à un film de long métrage? C'est difficile à dire, mais c'est certain que c'est avec l'augmentation des moyens de production aussi le fait que le cinéma, au bout d'un moment, a pris le dessus sur les autres arts du temps, et donc notamment du théâtre. Et que donc les gens pouvaient se déplacer pour aller uniquement voir un film en salle et pas d'autres types de spectacles. Mais ce que montre très bien, par exemple, l'article de Marion Polierstock justement dans l'ouvrage, c'est que même encore dans les années 20, alors que c'était parfois des films, donc des très grandes productions, films à spectacle, avec même une musique d'écran qui était composée uniquement pour le film, précédait ce qu'on appelait à l'époque un prologue, et qui en fait était une scène qui était donc jouée avec des acteurs du film ou non, sur scène, vraiment, avant la projection du film. Donc là encore, on pouvait parler de concomitance entre un art du spectacle qui ressemblerait plus soit de l'opéra ou du théâtre, et en même temps du cinéma. Donc en fait, justement, le fait de penser à une séance hétérogène, enfin hétéroclite, qui peut combiner à la fois de la projection et d'autres types d'art sur scène, c'est justement ce qui fait, selon nous, l'intérêt aussi de la séance du grand spectacle, et qui fait qu'on peut avoir encore envie aujourd'hui de se rendre dans une salle et de vivre ça, enfin voilà, partager en tout cas cette émotion ensemble avec avec un d'autres types de public. Voilà. T'as peut-être des choses à dire.
Et donc, nous sommes plutôt spécialistes en plus de cette période d'avant Seconde Guerre mondiale, et donc j'ai pas beaucoup de connaissances sur l'après Seconde Guerre mondiale, mais il me semble quand même que il y a encore des séances dans les années 50, 60, 70 où il n'y avait pas qu'un seul film diffusé pendant la séance. Il y avait notamment les actualités cinématographiques qui ont perduré jusque dans les années début 80, je pense. Ça n'était pas toujours qu'un seul long métrage. La séance de cinéma, c'est une richesse et une diversité sur tous les plans, et que ça soit dans la durée de l'histoire du cinéma. Donc c'est difficile d'affirmer des choses précises. Et sinon, pour revenir, c'est à la fois notre spécialité, le cinéma plutôt avant Seconde Guerre mondiale, mais c'était aussi en fait pour expliquer pourquoi c'est aussi prégnant dans notre ouvrage qu'on a co-dirigé, c'est que c'était à l'origine de notre projet. En fait, on était jeunes chercheuses, on était en train de faire notre thèse, et on a fondé une association de chercheurs qui s'est ensuite ouverte à des professionnels et à des archivistes aussi, conservateurs, qui s'appelle toujours Kinétras, et qui nous réunissait en fait malgré la variété de nos objets d'études, etc., parce que ce n'était pas que des chercheurs de sur l'histoire du cinéma muet, mais c'était plus d'audiovisuel d'une manière générale. Ce qui nous réunissait, c'était les archives et le patrimoine cinématographique, quelle que soit la période, quel que soit le corpus, quelle que soit la méthodologie qu'on utilisait. Et on a organisé plusieurs projets de recherche ensemble, collectivement. C'est un ouvrage collectif, mais c'était des... À l'origine de cet ouvrage, ce sont plusieurs projets collectifs qu'on a réalisés. Ce que je voulais dire, c'est j'ai oublié. Qu'on a commencé par cette... Voilà. Et donc, on a répondu à un appel de projet de recherche sur la notion de séance. À l'origine... Parce que c'était une notion transversale et c'était dans notre association, donc on choisissait des thèmes comme ça transversaux qui pouvaient nous rassembler tous autour d'un projet. Et donc la notion de séance, elle nous a paru transversale et c'était même aussi à un moment donné, c'était en 2017, où il y a eu ces débats autour, il y avait beaucoup ces débats autour du passage de l'argentique au numérique, que ce soit dans les tournages de films, dans l'exploitation. C'est devenu le tout numérique et c'était même aussi, ça questionnait aussi les cinémathèques à ce moment-là, qui elles aussi passaient et passent aujourd'hui, c'est mon avis, de moins en moins de films argentiques que de films numériques. Et il y avait la question aussi de reconstituer, et donc de retrouver cette nostalgie, de retrouver les séances d'époque avec le matériau, film, pellicule, de reconstituer des séances d'époque dans les restaurations de films aussi. Donc il y avait tous ces débats dans la société au moment où on a choisi ce thème. Et donc, pourquoi les années 20? Parce que, comme l'a rappelé Hervé, c'est vraiment une période charnière, les années 20, que ce soit donc dans la standardisation des programmes, des films eux-mêmes, dans les conditions de projection des films, donc dans l'architecture. Donc Hervé a cité l'article de Sharam Abadi qui travaille sur l'architecture des salles de cinéma à cette époque dans les années 20. Et c'est vraiment à ce moment-là, dans les années 20, que donc se crée ce métier d'architecte de cinéma, spécialement de cinéma, parce qu'au départ, donc, comme l'a rappelé Manon, le cinéma est diffusé dans des cafés, dans des brasseries, dans les foires, dans les campagnes. Et il se sédentarise. Il y a une vraie première salle de cinéma qu'en 1906, l'Omniapathé. Et ça se multiplie à partir de là, mais
c'est dans les années 20 que ça se...
Parce qu'au départ,
ça s'intensifie.
Mais parce qu'au départ, ce sont aussi surtout des salles de théâtre. Les premières salles qui sont sédentaires, qui passent vraiment des films en permanence ou voire en alternance parfois avec du théâtre quand même, parce que la saison théâtrale s'arrête pendant l'été, on veut quand même gagner de l'argent et donc on diffuse des films.
Notamment, il y a un article consacré au Vieux Colombier, qui est typiquement un endroit. C'est vrai que le Vieux Colombier, donc fameux lieu animé par Jacques Copeau, mais qui finalement, après diverses avanies, s'ouvre au cinéma. Et ce qui est assez passionnant, c'est qu'en fait, enfin en tous les cas, tel que l'article, je ne sais plus quel est l'auteur de l'article, mais le présente.
Christophe Gauthier et Marco Conti.
C'est Christophe Gauthier, oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un cinéphile, activiste, je ne sais plus son nom non plus, Jean Tedesco, voilà, qui arrive, qui dit bon, on peut peut-être faire une alternance cinéma-théâtre. Et ce qui est assez passionnant dans l'article, c'est que il fait du Vieux Colombier, qui était déjà un lieu germinal pour le théâtre, peut-être le prototype à la fois de la cinémathèque et des salles à réessais à venir, quoi.
Oui, en fait, c'était un plaisir pour nous donc de réunir. C'est vraiment une proposition qu'on leur a faite en fait. Donc Christophe Gauthier, spécialiste, on peut dire, de l'histoire hein, des ciné-clubs, mais vraiment à l'origine. Et puis par ailleurs, qui avait travaillé aux arts du spectacle à la BNF et qui donc connaît aussi très bien toute l'histoire des archives théâtrales. Et par ailleurs, Marco Consolini. Qui lui est vraiment un spécialiste donc de l'histoire du théâtre et de Jacques Copeau. Et en fait, on leur a proposé tous les deux donc de travailler sur ce même sujet et donc de cette salle, le théâtre du nouveau Colombier, théâtre du Colombier, du vieux Colombier. Voilà, je me disais c'est pas ça, mais donc théâtre du vieux Colombier qui a été créé en 1913 et donc pris en charge par Jacques Copeau et qui ensuite doit laisser place parce que enfin voilà ça ne fonctionne plus et donc à Jean Tedesco. Et là, Jean Tedesco, qui va donc en faire effectivement peut-être la première salle d'avant-garde, en tout cas, va fonctionner avec un système de ciné-club, mais qui en fait reprend le modèle qui a été mis en place par Jacques Copeau. Et c'est là qu'en fait le parallèle entre les deux est vraiment intéressant, puisque Jacques Copeau lui-même n'est pas du tout dans une politique d'ouverture à tous, mais au contraire, il a vraiment envie de rassembler autour de lui un petit groupe en fait de fidèles et qui viendraient assister donc aux séances de théâtre cette fois, mais avec une espèce de carte d'abonné, voilà. Et en fait, parce qu'il y a des difficultés à un moment avec le cinéma. Qui fonctionne pas très très bien. Enfin voilà, il y a même, il nous raconte même que Cœur fidèle, qui était projeté en présence de Jean Epstein, bah malheureusement n'arrivait pas à réunir assez de spectateurs. En fait, Jean Tedesco décide de reprendre donc l'alternance théâtre cinéma pour essayer de faire revenir du public. Et juste ce que je voulais dire par rapport à cette période aussi charnière des années 20, c'est qu'en fait et qui joue donc sur l'alternance des salles entre théâtre cinéma, c'est qu'au moment de la Première Guerre mondiale, vous le savez certainement, mais donc toutes les salles sont fermées, interdiction de se rendre au spectacle le soir, couvre-feu, et puis il y a aussi énormément d'acteurs ou de personnels de théâtre qui sont mobilisés, et en fait les salles de théâtre vont mettre beaucoup plus de temps à rouvrir que les salles de cinéma, où là c'était intéressant parce qu'on pouvait continuer à projeter des films qui avaient été tournés avant la guerre, et donc le spectacle continue. Et en fait c'est aussi à ce moment-là, donc au sortir de la Première Guerre mondiale 1918, que le cinéma, pendant cette période 14-18, a un peu pris le dessus sur le théâtre, aussi parce que, via les actualités dont a parlé Emmanuel, c'est-à-dire le fait de pouvoir se rendre au cinéma pour voir ce qui se passait au front, ce qu'on ne pouvait pas voir par ailleurs. Donc voilà, c'est quand même ce moment-là où le cinéma prend le dessus, et c'est aussi ce qui peut expliquer pourquoi, par ailleurs, dans les années 20, on commence à avoir de plus en plus donc, de cinéma bien institutionnalisé et que ça devient une habitude de se rendre au cinéma et donc que se créent par la suite les premiers ciné-clubs, les groupes de cinéphiles. Voilà. Et là aussi, on a des très beaux articles, notamment celui de Léo Souyès qui en parle, ou, voilà, de toutes ces pratiques en fait, de se rendre ensemble au cinéma, des pratiques cinéphiles. Il y a aussi l'article de Charlotte Servel sur les pratiques justement des surréalistes et qui donc met en place toute une cartographie pour comprendre où est-ce que les surréalistes se rendaient au cinéma dans Paris.
Mais juste sur les années 20, avant de parler de ces... j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu quand même sur... je parlais de cette écologie de l'attention, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de long métrage, etc. Vous insistez, évidemment, les articles insistent sur le fait qu'il faut se rendre compte que la séance de cinéma est constituée d'éléments extrêmement hétéroclites et de plus en plus hétéroclites, etc. Et moi, ce qui me frappe toujours, c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être un autre centenaire là à faire par rapport aux plateformes, etc. Mais sur l'attention flottante, il faut bien se rendre compte que, donc à l'époque, dans les années 20, il y a à la fois, il y a des séries, précisément. Précisément des petits formats, des épisodes, etc. Et puis il y a aussi déjà les cinémas permanents. Alors on a perdu la l'habitude du cinéma permanent qui a existé encore récemment. Je crois que le Brady le faisait encore, mais il le fait plus. Mais pour le coup, qui a perduré un certain temps. Mais donc là, pour le coup, on voit bien qu'il y a quand même une pratique de la séance qui est effectivement, ou qui est pas exactement en fait la séance telle qu'on l'entend, surtout si on pense à la psychanalyse, etc. C'est-à-dire où en fait il y a pas une espèce de seuil sacré, c'est-à-dire que on rentre, on sort. Il y a voilà, on voit un épisode d'une série ou autre chose, on ressort, etc. Donc c'est quand même intéressant, je trouve, comme voilà, comme ce moment où effectivement la séance est plus que jamais et les cinémas sont plus que jamais mis en question face aux plateformes numériques, etc. Quand même, à ce moment-là, en 1920, on pourrait dire qu'en fait on est à des moments un peu effectivement équivalents, c'est-à-dire que quand même dans les cinémas, bah en gros c'était un peu de l'attention flottante de d'utilisateurs de plateformes.
Oui, c'est vrai. Parce que... Oui, vous voulez dire, c'était un peu le même genre de consommation.
On prend, on repart, etc. C'est ça que je trouve assez frappant quand même à ce moment-là où ça se, où c'est encore en train de d'être touillé en quelque sorte, enfin où que ça se fait.
Oui, et donc effectivement, enfin c'est vrai que par rapport à des pratiques d'aujourd'hui qu'on peut avoir donc chez soi sur les plateformes via Netflix ou autre, de se dire là c'est bien parce que comme ça je peux regarder quand je veux, où est-ce que j'en suis, etc., ce que je veux, tout mêler. C'est sûr que, enfin certainement que voilà, les spectateurs pouvaient avoir la même envie de se rendre au cinéma comme ça, de pouvoir rentrer, sortir, reprendre des épisodes. C'est vrai qu'aussi les films restaient quand même assez longtemps à l'affiche, ou en tout cas pouvaient ressortir à certains moments, étaient diffusés dans plein de salles dans Paris. C'était effectivement ce moment des années 20, le grand moment du film à épisode, notamment chez Pathé, mais aussi parce que c'était...
Notamment parce qu'il y avait des problèmes aussi. Le long métrage restait un produit de luxe, quoi, en fait. Enfin, oui, toutes les salles ne pouvaient pas... C'est 1911, c'est ça, où il y a des salles qui ont plusieurs, un double poste qui permet de faire un...
Oui, c'est les
de passer du long métrage.
Voilà, qui permettent en fait d'enchaîner les deux bobines. Après, donc les séries, ça existait, c'est venu en fait des États-Unis dès 1914, mais donc c'est repris. Enfin, c'est déjà pris un petit peu là par Pathé, puis ensuite ça revient dans les années 20, mais aussi justement de nouveau pour attirer le public en salle. Et en fait, comme aujourd'hui. Plein de réalisateurs, plein de producteurs, plein de plateformes se mettent à vouloir à diffuser de plus en plus de séries parce que c'est une manière de fidéliser le spectateur, le public. De la même manière, dans les années 20, les maisons de production sont allées vers là en faisant notamment une alliance, un contrat avec les maisons de presse, où en fait, du coup, la série était d'abord diffusée dans le journal. Comme ça, les personnes achetaient le journal, commençaient à lire l'épisode et ensuite pouvaient se rendre au cinéma pour voir la suite ou en tout cas l'épisode en même temps dans une synchronisation parfaite. Et donc, chaque semaine, il y avait un nouvel épisode qui sortait au cinéma. Et c'est vrai que, on peut le voir dans la presse, hein, mais c'était vraiment un succès incroyable. Tout le monde voulait toujours aller voir la suite de la série. Donc, c'est sûr que le mode de consommation, l'envie, le bonheur qu'on peut avoir à retrouver toujours l'épisode suivant, on peut se dire que les spectateurs le ressentaient aussi dans les années 20, c'est sûr, et qu'il y avait toujours cette même recherche de consommation.
Et pour revenir donc sur la notion d'attention du spectateur, en effet, une salle de cinéma dans les années 20, il y a des gens qui fument, mais bon, ça juste, enfin, encore, je dis les années 20, mais je veux dire, c'est des choses qui ont perduré jusqu'à très récemment. On peut fumer, on peut consommer des aliments, on parle, bien sûr. Il y en a qui lisaient les intertitres à voix haute. Et que ça dérangeait les autres spectateurs. Il y a des entrées, des sorties de personnes. Donc oui, l'attention du spectateur n'est pas totale. Et le film n'est pas le seul spectacle d'une séance de cinéma. Le spectacle peut aussi être dans la salle. Il y a des spectateurs très agités, comme les surréalistes, aussi, qui ont fait des happenings pendant des séances. Il y a plein d'exemples possibles, oui, de perturbation de l'attention d'un spectateur pendant une séance de cinéma.
En fait, on dit que c'est avec notamment l'arrivée du parlant que là, du coup, l'attention a dû être beaucoup plus réclamée, nécessaire, on va dire, puisque donc dans ces séances-là, voilà, il faut toujours s'imaginer qu'il y avait donc la musique, les bruitages, les... Et finalement, c'était vraiment cacophonique, quoi, la séance de cinéma, et donc tout le monde pouvait continuer à parler. Et puis, vu que l'écran lui-même était silencieux, voilà, ça gênait pas. Et finalement, c'est avec le parlant qu'on a dû un peu plus... Voilà, faire attention à écouter, en fait.
Avant de passer à autre chose, mais sur ces espèces de formes bizarres, un peu hybrides, enfin, ces transitions étranges, donc évidemment, dans le livre, il y a beaucoup de choses sur ces espèces de transitions entre théâtre et cinéma. On a parlé du vieux Colombier. Puis il y a aussi tout l'enjeu des avant-gardes. On pourra en parler, mais... Dada, etc. Enfin, bon, il y a plusieurs articles là-dessus. Mais vous l'avez évoqué très vaguement, mais cette histoire de prologue, c'est quand même très curieux. Donc, il y a un article, effectivement, sur le cinéma américain, pour le coup, enfin, dans les années 20, qui évoque cette drôle de pratique qui est presque aberrante, en fait, où on joue d'abord sur scène le film avant de le projeter. Il y a quand même comment vous interprétez ce drôle de geste? Alors apparemment dans ces fameux prologues vivants, il pouvait y avoir parfois quelque chose de l'ordre de la bande-annonce apparemment quand même pour donc ça peut évoquer quelque chose, mais visiblement par ailleurs, il y avait aussi quelque chose qui pouvait l'idée était de mettre les gens dans l'état d'esprit du film avec des acteurs. Donc c'est vrai que là, il y a un dispositif très bizarre. C'est donc entre l'écran et la rampe, tout d'un coup, il y a un spectacle vivant qui est censé prendre par la main le spectateur pour le mettre dans le bon mood pour parler, pour le filmer. C'est quand même un drôle de dispositif, non?
Bah oui, c'est exactement ça.
Pas, en France, ça existait aussi. Ça a l'air américain quand même, non?
Non, mais oui, mais ça existait ensuite en France. Et justement, c'était une recherche qui m'intéressait et j'aurais aimé, mais bon, j'ai pas pu la poursuivre, mais ça existait aussi en France. On a encore copié sur les Américains, mais on l'a repris par la suite. Parce qu'en fait, l'idée, on peut y voir plusieurs choses. Donc effectivement, c'était vraiment un résumé du film, donc avant le film, qui permet de lancer un peu les grands enjeux du film. Là. Et aussi, vraiment, oui, de mettre dans l'ambiance. Donc il y avait la musique, les décors, et en fait... De nouveau, c'est bon à la fois pour jouer certainement sur l'émotion du spectateur et être sûr qu'il soit donc comme vous dites quoi dans le bon état d'esprit pour aller voir le film. Mais après, c'est aussi toujours un enjeu attractif quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, moi, on me dirait il y a tel film qui est projeté dans la salle, mais en plus avant, vous verrez, il y a les acteurs et la musique en direct. Forcément qu'on va dans cette séance parce que c'est toujours le spectacle en plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait.
C'est pas toujours. Ah, effectivement, c'était des acteurs du film, mais pas toujours.
Oui. Non, pas toujours. Sinon, ça dépend, des films. Mais souvent, quand même, il y avait au moins un acteur. Mais en tout cas, c'est toujours l'idée de faire de la séance un spectacle. Et en fait, il y a toujours cette problématique de, d'accord, là, ça commence à bien marcher, ça a pris le dessus sur le théâtre, mais finalement. La séance en soi, le film en soi, peut-être n'arrive jamais à se suffire à lui-même. Il faut toujours créer du spectacle en plus. Et je veux dire, aujourd'hui, quand on voit qu'on est en train d'aller vers de la 4DX avec les sièges qui tremblent, l'odorama, bref, on veut toujours créer plus. Parce que sinon, on regarde le film à la maison et voilà. Bah, en fait, là, c'était déjà ça. C'était comment attirer de nouveau le public en salle.
Oui, ça m'a attiré le public. Mais d'ailleurs, donc, c'est pour ça qu'au début, les petits intermèdes, il y avait de la musique, il y avait du cirque, il y avait des acrobates, etc. C'est ce qu'on appelait des attractions. C'était pour attirer les spectateurs en salle plutôt que qu'ils aillent voir autre chose, que d'autres loisirs, parce que Paris, dans les années 20, il y en a eu des loisirs, justement, après la Première Guerre mondiale. Donc, pour les attirer dans des salles de cinéma, on propose d'autres attractions. Et en effet, aujourd'hui, c'est ça aussi, le développement de la technologie, etc., des différentes technologies. C'est, il faut qu'il y ait un plus pour le spectateur de se déplacer de chez lui.
Oui, enfin, sauf que c'est beaucoup plus faible, en fait, comme offre, parce que c'est juste de l'offre technologique, mais finalement, c'est pas de l'offre de spectacle en plus. Par exemple, le spectacle vivant en salle, ça n'existe plus. Peut-être sauf au Rex, où ils font des choses, ou je sais pas quoi, mais c'est là où il y a beaucoup moins d'imagination, effectivement, aujourd'hui, quoi, dans certains points de vue.
Parce que les films aussi sont très longs aujourd'hui par rapport à l'époque. Mais oui, oui, c'est vrai. Mais c'est peut-être à relancer. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on...
Non, mais ça ne peut pas relancer.
C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, on recherche de plus en plus la reconstitution de ces séances un peu d'époque et qu'on a nous-mêmes organisées dans le cadre de ces différentes manifestations scientifiques dont sont issues les contributions de l'ouvrage. On avait organisé un cycle de projection et donc des séances de reconstitution où il y avait ces intermèdes, mais toujours donc entre théâtre, cinéma, musical, cinéma. Donc par exemple, le film de l'actrice et réalisatrice Musidora qui avait réalisé en 1924 La Tirade de los Toros. Marianne Gomez-Rodriguez a recherché les archives.
Il y a un article à ce propos, voilà, dans le...
Dans l'ouvrage, oui, qui raconte comment elle a reconstitué cette séance pour nous. Donc, rechercher le programme d'époque. Et donc, le film, c'est donc Musidora, qui était une actrice de musical, qui est devenue ensuite actrice de cinéma, a fait un film en Espagne. Où, donc, à un moment donné du film, le film s'arrête et elle accompagnait en tournée le film et elle arrive sur scène pour chanter des chansons. Elle est le personnage du film qui est une chanteuse de musical et elle entre donc sur scène pour chanter des chansons et puis elle retourne en coulisses et le film reprend. Et donc, il y a toujours une hybridité, voilà, il y a du spectaculaire qui était recherché. Oui.
Mais je voudrais, alors, par exemple, en revanche, sur un autre plan, ce qui est aussi assez passionnant, c'est que finalement, très vite, sur un plan sociologique aussi, les séances, en fait, quand même, se distinguent. Enfin, il y a les séances du peuple, il y a les séances des bourgeois, pour le dire vite. C'est ça aussi qui est assez passionnant, c'est que dans les années 20, finalement, alors c'est d'abord le peuple. Il y a d'abord des cinémas, effectivement, plutôt périphériques, qui sont construits en dur, parce qu'encore une fois, le terrain est abordable et on construit les choses. Et les beaux quartiers s'y mettent, notamment les Champs-Élysées. Alors ça, c'est intéressant, d'ailleurs, notamment dans l'article sur la construction, puisque à la base, en gros, sur les Champs-Élysées, on ne veut pas de cinéma, parce que c'est trash, quoi. C'est un gros... C'est un peu sale, un peu.
Mais c'est parce que les premiers lieux de diffusion, donc, comme je l'ai dit, c'est des brasseries, des foires, oui. Donc c'est des endroits où les intellectuels...
Oui, mais ce qui est étonnant, oui, bien sûr. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand même, les premiers cinémas en dur construits sont quand même plutôt dans des zones populaires, finalement, périphériques.
Parce que c'est le public qui va voir le cinéma.
Oui, mais c'est là où il y a de l'investissement, quoi, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, et c'est, alors là, pour le coup, c'est l'article notamment sur les surréalistes qui, en fait, moins que, enfin, c'est autant sur les surréalistes que sur la géographie des cinémas à Paris. Enfin, d'ailleurs, c'est croisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que les surréalistes vont, en fait, leur geste de cinéphile, et ça, c'est un geste aussi des cahiers, puisque voilà, j'écris au cahier, mais c'est l'idée, on va tout autant, parce qu'en gros, il y a trois salles, finalement, trois types de salles au moment où les surréalistes y vont. Il y a les salles de quartier, de boulevard, enfin, pas des grands boulevards, mais des salles populaires. Les salles prestigieuses. Et les salles dites spécialisées, qui sont en fait le nom d'alors pour art à essai, grosso modo, etc. Et le geste des surréalistes, comme sera d'ailleurs le geste quand même des critiques des cahiers, etc., c'est d'aller entre ces divers endroits, mais où on voit quand même, ce qui est quand même intéressant, c'est que très vite, il y a quand même une stratification sociale des séances, enfin des cinémas et des séances.
C'est-à-dire.
Ça m'a frappé quand même que si vite, enfin que le spectacle dit populaire devienne assez vite un spectacle, intégré, reconnu finalement à la fin des années 20, puisque c'est à ce moment-là que dans les Champs-Élysées, on commence à avoir des salles de cinéma, mais que ça se mélange pas finalement. C'est ça qui m'a frappé, en fait. C'est à quel point la stratification sociale, finalement, très vite, à quel point le cinéma est, en fait, vite accepté et reconnu comme art, finalement. Enfin, en tous les cas, reconnu comme pratique. Parce que c'est plutôt, reconnu comme art, c'est plutôt limite après-guerre. Mais en tous les cas, reconnu comme pratique qui n'est pas rédhibitoire. Mais sauf que ça se passe de manière très séparée.
De toute façon, je pense que c'était un peu ça de plein d'autres sortes de spectacles. C'est-à-dire que vraiment aussi, oui. À ce moment-là, on ne se mélange pas. Donc effectivement, on sait que si on va sur une salle des boulevards, on peut voir tel type de spectacle. Que si on va dans les faubourgs, on peut voir tel type de spectacle. Je reviens sur l'accompagnement musical, mais dans les salles prestigieuses, ce sont donc les grands films très bien présentés avec l'orchestre, tandis que dans les petites salles de quartier ou des faubourgs, là c'est plus généralement donc voilà le piano. Aussi, les films, comme on le verrait aujourd'hui, quand on habite dans une toute petite commune ou je sais pas, vous verrez jamais le film dans sa première semaine de sortie. Il faut toujours attendre. Bah, en fait, c'est exactement la même chose. Et effectivement, rapidement, on commence à avoir d'un côté, les films prestigieux dans les grandes salles pour les personnes fortunées. Puis c'était aussi tel type de spectacle et puis les autres films ailleurs. Et pour donc l'histoire des pratiques et des surréalistes, c'est qu'aussi après il y a les séances de ciné-club qui là sont vraiment réservées aux plus cinéphiles et avec là du coup des films que vous qualifiez d'arrêt, enfin de salles qui correspondraient à des films arrêt essai, mais effectivement souvent après, c'était
les salles spécialisées.
Voilà, salles spécialisées qui étaient donc des films parfois censurés qui arrivaient à montrer.
C'était la cinéphilie, etc. Enfin,
exactement.
C'est
des films invisibles.
Nosferatu, on sait bien, ouais. Il y avait des histoires. Enfin. Les premiers films occultes aussi, non, c'est un peu.
Mais je suis pas tellement d'accord sur le non-mélange des classes populaires et bourgeoises, parce que même les grandes salles avaient justement des tarifs différenciés. Okay. Et comme par exemple le film Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet, on voit très bien en fait les classes populaires sont dans les balcons. Non, oui, mais il montre le film Les Enfants du Paradis. Parle de cette période de la Belle Époque et de début du cinéma. Mais donc les spectateurs sont dans les balcons, là où c'est moins cher en fait, et les bourgeois sont dans l'orchestre. Et comme encore aujourd'hui dans les salles de spectacle, il y a des différenciations de tarifs. Et donc les spectateurs se mélangent quand même et se retrouvent pour voir.
Non, mais simplement dans l'article de Charlotte Servelle, elle mettait bien, enfin, en gros, c'était plus l'idée que les surréalistes étaient des espèces de sous-marins qui allaient dans toutes les salles, ce qui était rare en fait.
Ce qui était, je sais pas ce qu'elle voulait dire. Elle a montré que ce qui était surprenant, on va dire, pour les surréalistes en fait. Parce qu'on s'attendrait à ce que les surréalistes sont plutôt contre l'ordre établi et n'iraient pas dans les salles qui sont plus prestigieuses et luxueuses, mais iraient plutôt ne se mêler qu'aux classes populaires. C'est sa démonstration. Mais leur consommation de films est plus forte que la salle. Et s'ils se rendent dans des salles prestigieuses, malgré le fait de côtoyer des bourgeois, ou c'est eux dans ce cas-là qui vont mettre le désordre. S'il y a l'ordre, c'est eux qui vont mettre ce désordre, mais peu importe pour eux, leur but, et c'est pour ça qu'elle parle d'elle de frénésie, c'est qu'ils ont, peu importe la salle, le contexte de projection, etc., eux, ce qu'ils veulent, c'est voir des films. Et donc, dans une sorte de consommation intense. Voilà.
Alors, juste peut-être, avant d'aborder des aspects plus d'après-guerre, enfin, notamment sur le ciné-club, parce que je pense que c'est quand même un enjeu, il y a deux articles qui abordent des questions un peu inattendues. Alors, d'abord, il y a l'article sur la séance miroir, enfin, en tous les cas, qui le théorise comme tel en URSS. Alors, ça, c'est quand même un article, enfin, plus, voilà, sur un enjeu un peu ethno-cinématographique, etc. C'est drôle de pratique qui d'ailleurs n'a pas été visiblement seulement propre à l'URSS, mais que d'autres empires coloniaux et notamment français ont pu essayer. C'est la colonisation par la séance de cinéma. Et surtout, alors, ce qui est très curieux effectivement avec cette notion-là de séance miroir, c'est notamment donc que le papier s'attarde sur la façon dont l'URSS, enfin le pouvoir central, lance une campagne, alors ce qui est incroyable, de cinéafication, je crois, enfin en tous les cas c'est une francisation du truc, vers les petits peuples, ce qu'on appelait les petits peuples du Nord, c'est-à-dire tous les peuples sibériens, enfin les peuples natifs, pourrait-on dire, de la Sibérie. Et où tout l'enjeu, c'est à la fois, c'est ça qui en fait est très curieux dans ce dispositif, c'est déjà les civiliser en quelque sorte en les emmenant au cinéma, mais en estimant que pour qu'ils puissent s'intéresser à ce qui se passe au cinéma, il faut les filmer. Enfin, d'ailleurs, ce qui est dans les faits, etc. Mais donc, ils se montrent, où on fait des espèces de films pentographiques mis en scène sur des scènes de la vie quotidienne, etc., et où on les emmène, et là, ils vont, en fait, par la séance de cinéma, être civilisés. Alors, ce qui est assez beau, notamment dans l'article, c'est que très vite, en fait, ils disent, mais ça nous emmerde, on sait très bien ce que c'est, ça, on voudrait des films de la ville. Voilà. Mais, je sais pas, comment vous... C'est assez passionnant, en fait, cette histoire de la séance, précisément, comme... Enfin, un moyen d'éducation et en même temps coercition et en même temps aussi quand même un truc où ils font des choses, enfin où quelque chose se passe. Bon, enfin, je sais pas. Comment vous. Et puis d'ailleurs, elle sous-entend qu'il y a effectivement que par exemple la France a pratiqué le même genre. Enfin, sur tout cet enjeu là de colonisation par la séance de cinéma.
Oui, en fait, on avait envie également vraiment d'aborder toute cette question de la séance aussi comme un lieu politique, hein, parce que voilà, c'est aussi là que c'était un lieu de débat, mais aussi d'acculturation, tout le cinéma de propagande, de pouvoir faire passer aussi un message par le film. Et donc l'autrice de cet article, c'est Caroline Damiens, et qui par ailleurs a également publié aussi un ouvrage aux éditions de la FRHC sur le cinéma d'expédition, qui est vraiment spécialiste de cette question du cinéma en fait colonial. Et donc là, en l'occurrence, c'était effectivement des séances qui étaient organisées donc par le pouvoir central pour les peuples indigènes de Sibérie. Et oui, elle montre très bien comment est-ce que le cinéma est un enjeu en fait politique pour pouvoir asseoir sa domination sur place. Et on le voit mais bien sûr, tout le cinéma colonial français, on retrouve exactement ça. Hein.
Non, mais surtout aussi, ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'elle dit qu'en fait, il rejoue un truc complètement apocryphe sur, tout comme soi-disant les premiers spectateurs des films Lumière, enfin de l'entrée du train à la Ciotat, sursautaient, pensaient aller être écrasés, alors que c'est complètement apocryphe, et que en fait, dans les comptes rendus officiels, on disait que les indigènes faisaient la même chose, alors visiblement non. Ça, c'est très curieux, ça.
Bah oui, parce que donc il y avait déjà donc ces films, on va dire, qui étaient projetés dans un but très clair, mais en plus après, pour aller donc toujours dans le sens de la propagande, on pouvait raconter comment se déroulaient ces séances, etc. Et puis on s'éloignait complètement de la réalité. Donc là, c'est aussi l'histoire qui est complètement falsifiée. Et dans ce même enjeu du du cinéma comme voilà enjeu politique. Il y a également un article d'Anthony Resquigno sur les séances qui étaient organisées en Moselle et comment est-ce que le cinéma là va inviter en tout cas à recréer une enfin à cohabiter avec l'occupant voilà. On montrait des films, on se rendait ensemble au cinéma voilà, pour accepter en fait cela.
Il y a un autre article donc sur voilà, les Allemands et les occupés, enfin les Français occupés qui vont au cinéma. Bon. Notamment avec des propos de Straub, de Jean-Marie Straub qui a vécu la chose à l'époque. Alors, parce que bon, le temps file un peu. Justement, je voulais quand même. Il y a l'enjeu du ciné-club qui fait l'objet d'un article spécifique, précisément. Alors, qui est une forme précisément sur où on en est sur la séance de cinéma, la distinction entre les salles. Parce que voilà, la distinction entre les salles est beaucoup plus simple en fait aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de. Il n'y a pas cette espèce de. Enfin, à 100 ans d'intervalle, il y avait une presque, je dirais, une mosaïque de salles. C'était beaucoup. Là, bon, il y a les multiplexes, il y a les salles à réessai, point, finalement. Il y a, voilà, il y a pas grand-chose. Le ciné-club étant plutôt, voilà, ce dont les salles à réessai sont censées être les héritières, notamment parce qu'il y a encore des présentations, etc. Mais alors, notamment, donc, il y a un article qui fait l'histoire du ciné. Alors déjà, le ciné-club, l'article n'insiste pas tant que ça là-dessus, mais c'est quand même effectivement la forme même de la libération, notamment un enjeu quand même politique et de rivalité, notamment entre les communistes et les cathos, hein, et notamment Bazin, etc. Donc il y a un enjeu quand même là idéologique aussi, hein, pour aller parler voilà aux gens et surtout qu'on ne laisse pas. Ça c'est assez passionnant, voilà, Sadoul, Bazin, etc. Mais alors notamment, alors, il y a quelque chose que j'avais pas autant mesuré que ça, c'est que très vite en fait, c'est la libération, le ciné-club, etc. Mais comme son nom l'indique, le ciné-club, en fait, il n'est pas dans une salle de cinéma à l'époque, il le fait ailleurs. Il a un projecteur et en fait, il trouve une salle et il projette, etc. Et précisément avec, en plus, vraisemblablement, des options idéologiques très, très différentes. Et d'emblée, il y a en fait une rivalité entre ciné-club et exploitant. Ça, c'est assez étonnant, en fait. Enfin, il y a une rivalité entre ciné-club et cinéma. C'est quand même ça assez étonnant, puisque les patrons de salle considèrent les ciné-clubs comme des concurrents. Et ça m'a assez étonné, ça. Enfin, étonné. En fait, j'avais pas mesuré cet enjeu. Pour moi, voilà, le ciné-club, ça se passait partout, sauf dans les salles de cinéma.
Ouais. Bah, en fait, les salles de cinéma projetaient les films aussi, enfin, en 35 mm, et donc dans toutes les conditions de projection qu'on a exposées tout à l'heure. Et la plupart du temps, par contre, les séances qu'on appelle amateurs, ou en tout cas, c'était toujours des formats réduits, en fait, et donc qui permettaient effectivement de pouvoir se déplacer plus facilement avec des bobines plus petites, des petits projecteurs, et de pouvoir organiser ces séances qui étaient en dehors complètement du champ commercial et avec donc des enjeux derrière, idéologiques, pédagogiques, politiques.
Et donc, sur la concurrence des exploitants, oui, parce que les exploitants de salles commerciales voyaient ça comme une concurrence parce que justement c'était un moyen de voir des films avec juste une adhésion à un club et donc c'était moins cher que d'aller dans des salles commerciales, quitte à attendre, donc il y a eu des réglementations, etc., pour rassurer ces exploitants de pouvoir diffuser les films après un certain temps, etc. On peut bien attendre un petit peu, comme aujourd'hui, on attend parfois la sortie. On va pas forcément en salle, mais on peut attendre la sortie qui s'est réduite aussi de plus en plus du DVD ou de la VOD, qui serait donc moins cher par rapport aux tarifs des salles de cinéma.
Non, mais ça rappelle quand même que il y a toujours eu des modes de diffusion parallèle en fait, et que donc finalement, enfin, je veux dire, c'est pas inintéressant par rapport à la situation présente sur les salles, les plateformes, etc. C'est que il y a toujours eu, bon, c'est même pas la VHS, enfin, si la VHS, enfin, moi, je suis de la génération, enfin, comme, enfin, non, je suis plus vieux que vous, mais je suis de la génération VHS, mais la VHS était typiquement bon. Mais ce qui est assez beau, oui, dans le, notamment, il y a quelque chose d'assez touchant, c'est sur le fait que, bon, en gros, les ciné-clubs tels qu'ils existaient dans les années 50, apparemment, ça a perduré jusque dans les années 80, grosso modo, parce que après, ça n'avait plus trop de sens, je pense, quand même, puisque les salles à réessai prenaient déjà aussi le côté présentation en salle, etc. Mais notamment, c'est assez beau sur la production graphique et sur le fait qu'ils ne pouvaient pas, évidemment, utiliser les affiches, donc ils devaient refaire les affiches. Donc, il y a toute une production comme ça, de revisitation, ça c'est assez émouvant. Mais en tous les cas, sur le ciné-club, voilà, et c'est vrai que le ciné-club après a été en gros happé, enfin, parce que c'est ça aussi, voilà, qui est intéressant dans l'article, c'est la formule présentation, projection, débat, qui a été instituée par le ciné-club et qui en fait maintenant, voilà, existe encore dans les salles à réessai, soit avec quelqu'un du film, soit avec un critique, ou voilà. Et alors, sur cette forme-là, là aussi c'est intéressant parce qu'on voit, alors on voit bien en quoi les chrétiens, enfin les cathos et les communistes pouvaient s'y retrouver sur cette forme, mais que cette forme est effectivement aussi assez discutable et qu'il y avait débat visiblement dans les ciné-clubs pour la pratiquer, notamment sur le débat.
Oui, donc c'est un article de Léo Souliès, de bas, pour le citer.
Qui a par ailleurs publié aussi un ouvrage aux éditions de la FRHC,
qui est issu de sa thèse, en fait, de doctorat. Non, oui.
Non, mais sur le débat, là,
c'est
marrant,
sur le débat, en fait, voilà. Parce qu'il montre donc dans cet article, mais que oui, voilà, mais que ça vient des spectateurs en fait, qui ne sont pas pour le débat, qui acceptent la présentation des films avant le film, ils sont d'accord pour avoir des informations supplémentaires sur les films qu'ils vont voir, ils sont là pour voir les films, mais en discuter après, c'est difficile en fait pour eux. Que ça soit de la prise de parole en public, c'est difficile pour les spectateurs. Et il montre, Léo Souliès montre qu'ils préfèrent même encore rentrer chez eux et en discuter dans leur sphère privée avec leurs proches qu'avec collectivement avec des inconnus dans une salle. Donc, Ce modèle présentation, projection, discussion ne marche pas. Non, elle ne fonctionne pas.
Mais on voit bien le crible catho-communiste, quand même. Notamment, ce qui est intéressant aussi dans ces débats, parce que visiblement, c'est qu'en fait, il y a deux modèles. C'est l'école. L'école, en bon. Voilà, plutôt côté hussard, qui va. Et quand même la messe, quelqu'un le dit dans le c'est précisément la question de la messe. Donc ça installe aussi comme le ciné-club, comme enfin, et quand même la séance de cinéma, ce registre de séance de cinéma, qui est quand même l'air de rien, c'est ce que sont devenus les cinémas dits art et essai, catégorie qui est devenue absurde et devrait disparaître. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même le devenir, éventuellement école, mais aussi église. Du cinéma.
Mais on retrouve aussi ce modèle présentation projection dans les cinémathèques.
Oui, mais ça c'est qui voilà. Ça c'est encore autre chose, c'est le devenir muséal. Peut-être parce qu'on approche là de là et peut-être qu'on pourra laisser la parole au sur toute cette voilà, c'est cette variabilité finalement de ce qu'est la séance de cinéma. L'enjeu là aujourd'hui, évidemment, dans le contexte présent, c'est-à-dire les plateformes, le flux, le streaming, etc., qui peut être, enfin voilà, qui encore une fois sur l'écologie de l'attention, finalement dans les années 20, il n'y avait pas une attention non plus très forte, mais sauf que là, c'est complètement individualisé, etc. Bon, je ne vais pas faire un dessin, Mais c'est toujours le problème de, bon, mais alors, la séance de cinéma à l'ancienne, entre guillemets, enfin, en tous les cas, telle qu'elle s'est stabilisée dans les années 20, 30, etc., quel est son horizon? Et effectivement, le problème, c'est qu'on voit bien que c'est quoi l'horizon? C'est, bon, soit éventuellement, on va dire quelque chose qui, finalement, redevient un peu forain, enfin, c'est-à-dire géode, ou alors salle avec plein de vibrations, de machin, etc. Soit, en gros, un peu l'église, c'est-à-dire le musée. C'est-à-dire le devenir muséal du cinéma, de la séance de cinéma, c'est-à-dire ça se passe au musée, à la cinémathèque, etc. Ou dans quelques salles encore, qui tiennent encore. Bref, comment vous voyez le devenir de la séance de cinéma telle qu'on la connaît encore?
Bah, nous, de toute façon, c'est sûr qu'on a envie de...
Vous qui travaillez en plus pour une fondation.
Voilà, nous, on y croit. Enfin, je veux dire, à la séance, et c'est pour ça qu'on a voulu beaucoup réfléchir à cette question.
Et qui est un espace un peu muséal.
Oui, à la fondation Pathé, vous voulez dire? Oui. Non, mais moi, quand je dis on, c'est oui, donc moi, travaillant à la fondation Pathé, mais c'est aussi moi avec toutes mes compagnes qui ont dirigé l'ouvrage, toute l'équipe de Kinétrace, toutes les personnes qui font partie aussi de la FRHC, bref, tous les défenseurs certainement de l'histoire du cinéma. Et bref, tout ça pour dire que pour nous, publier ce livre, c'était aussi parce que justement, on se disait, mais pourquoi est-ce qu'on est autant attaché à cette séance presque esthétique vintage? Et en fait, ça nous intéressait de comprendre vraiment ce qui s'était passé et qu'est-ce qu'était véritablement la séance de cinéma. Comme on l'a très bien résumé, je pense, ce soir, c'est qu'elle est jamais restée une en tant que telle, mais elle a toujours continué à évoluer. Et donc, aujourd'hui, elle va évoluer encore, c'est sûr. Toujours chercher à se retrouver, se réinventer. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que donc déjà toutes les salles sont uniquement équipées quasiment en numérique. Donc déjà, il y a eu quand même la grosse larme de plus voir des films en 35 mm, mais en numérique. Mais en plus, maintenant, on discute même la projection elle-même, puisqu'en fait, de plus en plus, on va avoir des écrans qui diffusent de l'image. Donc, quand on en était encore à se dire, bon, d'accord, c'est en numérique, mais quand même, il y a un système de projection. Donc, mais en fait, si maintenant, c'est même un écran LED qui renvoie l'image, bon. Donc, moi, je pense sincèrement que c'est parce que on va rester dans une séance donc de projection, si possible, 35 mm, avec un accompagnement musical particulier, ou voilà, qu'on peut en tout cas recréer cette séance spectacle, qu'on va continuer à avoir envie d'aller au cinéma. Parce que sinon, et encore plus parce qu'aujourd'hui, on est dans
avec des films contemporains.
Oui, y compris avec des films contemporains.
Parce que c'est ça l'enjeu, en fait. Mais sauf que juridiquement, vous savez, après, il y a des lieux en plus alternatifs. Il y a des endroits, à Marseille notamment, je ne sais plus le lieu, mais où effectivement, il peut y avoir... Mais d'ailleurs, qui ne sont juridiquement pas dans les clous, puisque en fait, ils peuvent projeter des choses avec de la musique, etc. Mais tout ça est un peu entre... C'est vraiment, ça ne tient qu'à la volonté, voilà, d'un lieu comme ça, mais pendant ce temps-là, ça bouge pas dans les cinémas.
Non, mais après, à la Fondation Pathé, tous les jours, on peut voir des films, donc pas tous en 35 mm aussi en DCP, mais qui sont toujours accompagnés musicalement, en direct. Et voilà, c'est quelque chose, justement, parce que c'est que donc, des films muets, mais qui viennent de cinémathèques du monde entier. Mais il y a justement cette volonté de continuer à dire, oui, le cinéma existait d'abord comme ça. À côté de ça, dans toutes les salles Pathé, on peut voir les films autrement et en numérique, mais on sent quand même, j'ai l'impression, et en tout cas quand il y a les avant-premières, des choses comme ça, qu'on cherche toujours quand même à créer le spectacle. Et même si aujourd'hui ça passe par, je le disais au début, les sièges qui vibrent, des différents effets, les lunettes 3D, etc., mais en tout cas il y a toujours une volonté de créer le spectacle. Mais parce qu'en fait, comme je le disais, limite, c'est parce que le film ne peut pas forcément se suffire à lui-même, parce que sinon, on le regarde à la maison. Et qu'est-ce qui donnerait envie aujourd'hui? Et donc, je disais encore plus, parce qu'on est dans une société qui va vers l'individualisation à l'extrême. Qu'est-ce qui peut donner encore envie de se réunir pour partager une émotion comme ça? Je ne sais pas si ça peut être que le film, malheureusement. Mais bon, voilà. Et moi, je vois beaucoup de films muets en salle avec la musique, etc. Mais je veux dire, voilà, moi-même, je vais plus tellement voir des films contemporains, ou sinon, il faut que ça soit vraiment quelque chose de, voilà, d'important, quoi. Voilà. Et peut-être que le public a aussi une réflexion, des choses à partager.
Oui, voilà. Enfin, mais il y a une autre chose, moi, ce à quoi je crois, c'est que, notamment en tous les cas, en dehors de Paris, je crois que le cinéma ne peut plus s'en tenir aux séances, et notamment, il y a quelque chose d'important, c'est que je crois qu'il y a un restaurant ou un bar, mais digne de ce nom, où là, ça devient un lieu de vie, quoi, voilà, où précisément, la séance, enfin, vit avec autre chose, quoi. Parce que c'est ça le problème, c'est que le cinéma est devenu seulement un lieu de projection, point. Alors que précisément avant, enfin, dans les années 20, etc., c'était un lieu de vie aussi. Enfin, où en fait, ça, en tous les cas, c'était, il y avait une porosité avec la vie en général. Alors, il s'agit pas, là, de faire la foire dans la salle. Mais c'est vrai que quand même, quand on se balade, et moi, ce qui m'arrive assez souvent, puisque j'interviens pas mal dans les cinémas, en fait, qui tiennent, c'est qu'ils ne se contentent pas de projeter des films. Ils font autre chose, quoi. Et je crois que ça, c'est assez important. Bon, et peut-être, voilà, on arrive à la fin de la rencontre.
Merci. Bonsoir. Je voulais juste... j'aurais voulu avoir un éclairage sur la question de la taille de l'écran. Parce que je pense que ça a une importance. La taille des écrans, qui n'est pas toujours la même selon le cinéma, actuellement même. Et je suppose qu'il y a une histoire de cela aussi.
Bon, moi, je n'ai pas de chiffres à donner, mais je pense peut-être que Sharam Abadi, qui est donc spécialiste de l'architecture des salles, qui a écrit ce livre, a certainement les cotes. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme vous l'avez dit, ça dépendait complètement des salles et du nombre de spectateurs et donc de l'éloignement de l'écran. Et l'écran, ça peut être tout simplement même l'écran qu'on a chez soi pour le format Pâté Bibi. Vous savez, c'est ce format qui avait été inventé au tout début des années 20, en fait, le centenaire, 1923. Format 9,5 mm. Bah là, l'écran, il est tout petit. Il est comme ça. Mais c'est déjà un écran de cinéma. Donc après, tout dépend... en fait, de la distance qu'il doit y avoir entre le projecteur et l'écran, et puis par rapport au spectateur. Mais et puis après, si, il y a quand même aussi une autre histoire des écrans, et c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, c'est aussi les différents formats qui sont le panoramique, et ça aussi, il y a une histoire à faire, enfin, il y a plein d'articles là-dessus, où là aussi, comment renouveler l'esthétique du film et comment amener de nouveau les gens en salle, c'était aussi en réfléchissant sur les différents formats de pellicules et d'écrans. Oui. Et c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé là dans le livre, mais il y a déjà à l'époque plein de réflexions sur différentes formes de projection, d'écran. Ouais. C'est un autre sujet passionnant.
On apprécie parfois d'aller voir un film en 70 mm. Je pense que ça existe encore, ça. Mais...
Ben, si je ne me trompe pas, il y a deux salles qui peuvent projeter en 70 mm à Paris. Ouais. Et la Cinémathèque.
Très bien, merci.
Oui, merci Stéphanie de parler aussi des pratiques des salles de patrimoine, parce qu'on n'en a pas parlé donc lors du débat. Et donc justement, Stéphanie est l'auteur d'un article sur les pratiques de programmation d'Henri Langlois à la Cinémathèque française, et qui fait écho à un autre article de Béatrice Tadeo-Fouca. Sur les échanges entre donc Langlois, la France et puis la Cinémathèque en Amérique latine. Voilà. Mais oui, en tout cas, pardon. Juste, on est resté sur le modèle effectivement quasiment franco-français, même si donc l'article de Marion Polerstock nous fait sortir et aller vers les États-Unis. Et ça, on l'explique dès le début dans l'introduction, et on cite bien plein d'autres études, ouvrages qui renvoient à ça. Et il ne faut pas uniquement penser que la séance, c'est uniquement quelque chose de franco-français.
Oui, c'était juste évoqué, voire, je ne sais pas, je viens d'acheter le livre, mais je n'ai pas feuilleté son contenu. Des types de séances intéressantes qu'on n'a pas évoquées. Alors, vous évoquiez à l'étranger. Moi, j'ai un souvenir, parce que j'habitais dans les années 60 en Amérique du Sud. J'ai quand même vu pas mal de films dans des drive-in, qui avait été importé de la pratique américaine. Donc voir le roi des rois de Nicolas Ray dans un driving ou les trois danciers du Bengale, c'est des souvenirs bizarres par rapport à notre pratique. Donc ça, c'est pour dire ça peut être intéressant de voir ce type de séance un peu étrange. Et puis il y a une chose, alors la plus historique qui m'intéresse personnellement dans les recherches, c'est l'ancêtre des ciné-clubs, c'est-à-dire les patronages laïcs ou confessionnels, voire politiques très marqués parce que le Parti communiste tout ça organisait, et toutes ces séances des années 20 ou 30 où à la limite les curés montraient des films religieux mélangés avec du Charlot et du Harold Lloyd, qui était le motif pour lesquels les gosses venaient d'ailleurs, et donc et un petit peu les choses soviétiques, puisqu'on trouve il y a des films soviétiques qui ne passaient que sous ces formes-là et qui étaient souvent accompagnés après de documentaires ou de courts-métrages de propagande. Donc c'était des types de séances intéressants, patronage, milieu politique. Alors ça c'est plus ou moins fléchi dans les années 50, ça, hein, ça a disparu progressivement, je dirais. Ça continue. Oui, ça continuait, mais c'était, je pense, assez intense. À certaines époques, il y avait des films produits pour les patronages, d'ailleurs, hein, de la bonne presse et tout ça. Et puis, bah, le souvenir des drive-in, qui était quand même une bizarrerie, voilà, où on pouvait manger, où on avait son écouteur dans la voiture. Enfin, tout ça était abominable en termes de cinéphilie, mais enfin, c'est quand même intéressant.
Pas sur ça exactement, mais c'est vrai qu'on avait envie aussi d'en parler. Et ça a été l'objet d'un colloque qu'on avait organisé, qu'on avait appelé... performer la séance, c'était ça ? Quand montrer ses fers, performer la séance, et où on parlait justement vraiment de toutes ces actions qui pouvaient se passer pendant le film, etc. Et on s'intéressait vraiment à ça, à toutes les performances qu'elle a avec le film et qui jouaient beaucoup sur le mode de projection. Et c'est vrai qu'on a beaucoup étudié, même, enfin, je sais pas, il y a des sortes de projections à travers le monde qui sont hallucinantes. On peut voir un film dans des piscines publiques, on est donc dans la piscine, on peut voir dans sa voiture, on peut voir dans un stade. Il y a plein de choses qui sont inventées. Et voilà, mais vous avez le sac de Port des Nonnes et vous êtes bien habitué des festivals. Et c'est vrai que même à Bologne, ce qu'on retient tous, c'est la projection en charbon sur la petite place. Et voilà, et on sera toujours content d'aller voir un film là parce que c'est un moment particulier et c'est magique.
Peut-être juste une remarque, mais alors c'est pour rebondir sur l'histoire des ciné-clubs qui avaient lieu ailleurs que dans les salles de cinéma. Bon, ça, je n'ai pas vécu l'époque immédiatement de l'après-guerre, mais par contre, on voit un film qui est La Marie du Port de Marcel Carnet, où Jean Gabin est directeur d'un cinéma dans une ville de province. Enfin, c'est une ville je ne rappelle plus la ville, mais enfin, c'est en tout cas une ville de province. Et le directeur du cinéma, il dit à un personnage, « Ah ben tiens, on va voir ce matin, il y a les jeunes qui font le ciné-club. » Et ils rentrent dans son cinéma, où il a prêté la salle, et ils sont en train de projeter les jeunes Tabou de Murnau. Et ça, c'est une séquence de Carnet. Alors, je ne sais pas si c'est une utopie qui existait, mais il y a quand même des cas où on pouvait, dans un cinéma commercial, avoir un ciné-club le matin. Voilà, bon, je dis ça pour l'anecdote.
Les cinéastes qui se trouvaient dans les gares Montparnasse-Saint-Lazare, qui travaillaient en permanent, c'était un spectacle permanent toute la journée, ce qui permettait à certains SDF, d'ailleurs, de se chauffer. Et vous pouviez y voir des courts-métrages, les informations, des documentaires, les ineffables Three Stooges, qui sont trois crétins américains dans les années 50. Je ne sais pas si certains connaissent ça, mais enfin voilà. Alors je voulais parler de ça parce que c'est une forme de séance aussi de cinéma. Et puis il y avait aussi les cinémas d'exclusivité par rapport au cinéma de ce que vous appelez de faubourg. Dans le 18e arrondissement, vous aviez par exemple un cinéma qui s'appelait L'Idéal, qui est assez connu des cinéphiles, où on voyait des westerns américains doublés, etc., ou Le Métropole. Et dans le même temps, vous aviez des salles plus prestigieuses, Place Clichy par exemple, Le Vepler, où vous aviez des films en exclusivité, c'est-à-dire que là, véritablement, c'était un autre type de séance. Et dans le même temps, vous aviez aussi l'aspect ciné-club, c'est-à-dire que dans les écoles primaires, vous aviez éventuellement une soirée familiale où on projetait, sans arrière-pensée ni politique, ni religieuse, ni philosophique, des films du commerce, comme par exemple le train sifflera trois fois, ce genre de choses. Et c'était une sortie familiale, un soir par semaine, dans une école primaire, dans les quartiers. Et dans le même temps, si vous étiez dans un collège de quartier aussi, vous pouviez avoir ce qu'on appelait le ciné-club, et j'ai eu moi-même le ciné-club anglais au Gaumont Palace. Donc il y avait une matinée au Gaumont Palace, c'était la plus grande salle de Paris, avec 3000 places, où vous pouviez voir un film, je ne sais pas, les Mutinés du Bounty, en anglais, pour une vocation de ciné-club. Voilà ce que je voulais simplement rajouter. Et puis alors, si sur l'aspect silence et niveau sonore, le film dont vous avez parlé tout à l'heure, Les Enfants du Paradis, fait référence à l'opéra du 19e siècle, où vous avez encore aujourd'hui, à l'Opéra de Nice, vous avez un billet pour le paradis, c'est-à-dire la galerie tout en haut, qui était à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, beaucoup moins, réservée aux gens, aux enfants du paradis, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui n'avaient pas de place assise d'ailleurs, mais qui allaient, voilà. Et alors, je fais référence aussi à Jean-Yves Ameline, je ne sais pas s'il est cité dans le livre ou pas, c'est un jésuite qui est décédé maintenant, anthropologue, et qui est un historien de l'espace sonore, qui rappelle par exemple que dans les églises au Moyen-Âge, il n'y avait pas de silence, parce que le silence ne s'appliquait pas, et les paysans entraient avec leur bétail dans l'église, et ça faisait une espèce de foire, et ça n'était pas du tout sacrilège, si vous voulez. Voilà, donc il y a une histoire qui a été faite, enfin, il y a des historiens de cela, y compris, alors je suppose que ça pourra intéresser les séances de cinéma.
Exactement, là, il y a une étudiante là, qui est en train de travailler justement sur le silence dans les films d'une certaine réalisatrice. Et en fait, il y a aussi Anthony Fian qui a sorti un livre sur ça, sur l'attrait du silence, et en fait, qui montre finalement combien c'est gênant de se retrouver aujourd'hui dans une salle publique, et puis d'un coup, il y a un silence dans le film. En fait, on n'est tellement pas habitué, parce que dès que le film commence, on est tout de suite dans cette ambiance comme ça sonore, et puis d'un coup, s'il y a un silence, on est complètement surpris, mais c'est vrai qu'en fait, le silence n'existe pas, et là, si d'un coup, on essayait de faire le silence, on serait tous extrêmement gênés, parce qu'on n'est pas habitué à ça, quoi. Donc voilà.
Oui, merci, bonsoir. Oui, vous avez évoqué, je n'étais pas là aux toutes premières minutes de votre présentation, j'espère que ça ne va pas redonder, parce que vous avez évoqué les espaces de projection, les salles spécialisées ou autres, la répartition géographique aussi, les publics, les contenus. Qu'est-ce qu'il en est du temps de la séance? Est-ce que ça a évolué? Ça a évolué évidemment avec les techniques. Vous avez montré les premiers films, un premier film de quelques minutes. Vous avez évoqué tout à l'heure l'allongement de la durée des longs métrages maintenant. Qu'est-ce qu'il en est dans ce parcours, ce développement et l'histoire de la séance?
Oui, donc on le disait au tout début, mais c'était des films d'une durée, la durée d'une minute, qui était vraiment la taille de la bobine, les premiers films lumière. Puis après, il y a l'allongement du métrage petit à petit. En 1913, là, on commence vraiment à avoir des films quand même qui s'allongent. Après, dès le début, on a aussi des films qui sont en plusieurs parties, parce que même si on peut avoir un allongement du métrage, il y a toujours ce problème du projecteur qui est tout seul, et donc ça serait beaucoup trop long de devoir recharger la bobine. Donc voilà, c'est au moment où on a les... Oui, voilà. C'est ça, tous les intermèdes aussi, oui, qui accompagnent les séances et qui compose le programme. Ensuite, donc voilà, cabine double poste, et là on a un vrai allongement du métrage. Mais finalement, je dirais que, comme on l'a dit tout à l'heure, la séance redevient ensuite rapidement de nouveau un spectacle. De la même manière, je ne sais pas si en fait il faut toujours penser la séance en termes de progression. C'est-à-dire que plus le film serait long, plus on serait vers une séance. Voilà, parce qu'en fait il y a tous les types de formats. Et en fait, c'est étonnant, mais là, en ce moment, à la Fondation Patton, on est en train de travailler sur un film de 1930 qui dure 6 minutes. Voilà. Et à côté de ça, on a restauré La Roue qui dure 7h30 et qui date de 1923. Donc en fait, la durée du film n'est pas forcément liée à sa date de production. Voilà. Par contre, aujourd'hui, moi, ce que je remarque, c'est de plus en plus les films où on nous dit « ça, c'est un film à aller voir en salle », type Babylone, bah, ça dure souvent 3 heures. Voilà. Donc, on peut dire que ça, c'est un peu les grands formats. Alors, on dit que c'est parce que, aussi, c'est pour... voilà, et puis que ça correspond aussi à des... Parce qu'on est de plus en plus habitué à des narrations longues, type série, en fait, voilà. Mais, bon... Je pense pas en tout cas que ça soit une évolution marquante, le fait d'aller vers des films de plus en plus longs, même si effectivement l'avènement du long métrage a permis au milieu des années 10 d'avoir une narration continue qui a permis un développement narratif, esthétique du cinéma, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour ça qu'après on n'est pas revenu à des formats plus courts. Merci beaucoup. Merci.